Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile du règne de Dieu. Nous arrivons à l'étude numéro 10 et le titre sera « L'espérance et l'attente ». Première partie. L'espérance et l'attente, la première partie. Chers amis, on parle souvent d'un paradis perdu. Or, notre véritable paradis, il est à venir. La mort que combat la Sainte Bible n'est pas la mort extérieure. Le passage dans l'au-delà, ceci peut, selon les circonstances, être une joie. De même, les détresses de la vie ne sont pas la mort. C'est justement quand nous sommes en danger de mort que le sublime naît en nous, car une existence facile et molle, cela n'a jamais mené à rien. Nous ne devons pas souhaiter que les crises de la vie nous soient toujours épargnées. Il y a mort quand nous ne savons pas être à la hauteur de notre tâche, quand notre esprit s'obscurcit. Il y a mort quand nous restons accrochés dans l'engrenage du temps et du monde, quand nous ne voyons plus d'issue et que nous désespérons. La mort est sur un homme quand il se confie dans ses particularités et qu'il se cramponne à des choses périssables telles que l'argent, la maison, sa nouvelle Mercedes électrique ou toutes ses terres. C'est à cette mort-là qu'il faut prendre garde. La société des disciples de Jésus-Christ surtout doit être entièrement libre, donc elle doit être un exemple de vie. Elle n'a pas à se construire des nids et à se battre pour ses nids, comme s'ils avaient plus d'importance que Dieu lui-même. Si la société des disciples de Jésus-Christ reste libre en son fort intérieur, elle peut être la détentrice de la vie dans ce monde de mort. Pourquoi le Seigneur lutte-t-il tellement contre la mort? Sachez que tout en ce monde a une fin, tels que les plantes et les animaux. L'homme a également une fin. Il faut que sa vie cesse. Jésus ne peut pas, en combattant la mort, combattre simplement toute cessation de la vie. À ce compte, il combattrait la moisson. Une pomme mûrit et tombe de l'arbre. Les fruits de la terre mûrissent, alors ils ont une autre fonction à remplir. De même en ce monde, l'homme arrive tôt ou tard à maturité, alors il doit servir ailleurs. Bien des gens sont achevés dès leur enfance. Ils peuvent mourir, ayant déjà rempli leur tâche, et ils s'en vont servir ailleurs. Personnellement, et j'ai honte, croyez-moi, de vous dire, en ayant été seulement un pseudo-chrétien pendant plus de 40 ans, ma fin n'aurait en aucun cas été le ciel. C'est par une grâce imméritée, non méritée, que le Seigneur m'a miraculé une quatrième fois pour qu'à l'âge de 90 ans, 90 ans, il me permet de le servir. Nous ne dépendons pas des années. Voici donc la question capitale de notre vie. Quand es-tu mûr? Si ta tâche est maintenant achevée, c'est bien, et tu pourras mourir. C'est ainsi que Jésus meurt en disant « Tout est accompli ». Par contre, ne pas arriver à l'achèvement, voilà ce que c'est que la mort. Aussi le Seigneur Jésus dit-il « Quiconque croit en moi arrive à l'achèvement, il ne mourra pas, quand même il serait mort. Je le rends parfait. Je supprime ses défauts. Je suis la résurrection et la vie. Je m'occupe des infirmités et des paralytiques, des aveugles et des sourds pour qu'ils arrivent à l'achèvement. Oui, chez celui qui vit et croit en moi, il y a une progression jusque dans l'éternité. L'heure critique, l'heure où il va s'épanouir, est arrivée. Oui, à une existence supérieure qui a maintenant sonné pour lui, mais ce n'est plus une mort. Toute souffrance réside dans l'inachevé. Traîner après soi tant d'imperfections, voilà ce qui fait pleurer. Mais ces larmes, Dieu entend les effacer de nos yeux. Il entend nous pardonner nos fautes, réparer le mal et nous place sur une nouvelle terre ou un nouveau terrain. Voyez-vous, ce que nous n'avons pas terminé, il le termine. Alors, c'est la résurrection. Alors, s'achève ce que Adam et Ève au paradis n'ont pas pu achever et ce que les hommes, dans l'accomplissement de leur vocation, ont négligé. Il y a mort quand on ne peut plus se développer. Les hommes sont de nos jours en lutte. Ils veulent atteindre tel ou tel but. Ils ne l'atteindront pas avant que la mort soit vaincue. S'il n'y a pas de résurrection causée par la puissance de Dieu, alors il y a des familles, des peuples, des races pour lesquelles il n'est plus de progrès possible, mais seulement la stagnation et la décadence. Or, la stagnation produit le retour à la sauvagerie. Ainsi faut-il souhaiter pour tout homme et pour tout peuple que l'évolution continue. Et oui, et tout d'abord, l'évolution selon l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a créé le monde. C'est lui qui crée les cristaux et les pierres. C'est lui qui fait pousser les plantes. C'est lui qui crée les animaux. Et l'Esprit Saint ne crée vraiment d'une façon parfaite que en l'homme. C'est ici la force irrésistible de l'Esprit Saint. Il guérit le corps lui-même. les maux corporels les plus grands peuvent disparaître si l'homme recommence à se développer. Quiconque vit et croit en celui qui est la résurrection et la vie ne connaîtra plus d'arrêt. Les hommes qui s'attachent à Dieu travaillent en silence. Ils attendent avec patience. Romains chapitre 8, verset 23. Or, cette patience consiste à tendre toute son énergie vers le but, oui, vers le but qu'on veut atteindre. Les hommes qui travaillent en Dieu et pour Dieu ont la perspective d'une amélioration de notre condition humaine, de la rédemption de notre corps. L'histoire naturelle nous dit qu'un être vivant se forme suivant ses désirs. Des insectes qui ne veulent pas être dévorés, tels que par les oiseaux, finissent par prendre la couleur d'une feuille ou celle d'un simple morceau de bois, afin d'induire l'oiseau en erreur. Dans les pays du Nord, le pelage des lièvres devient blanc, blanc comme la neige. Et chez nous, à peine peut-on distinguer un lièvre d'une motte de terre. Ainsi, le corps se conforme au sens de la vie. Mais nous autres hommes, nous retardons sur le sens de notre vie. Inclinons-nous devant le lièvre. Il est ce qu'il doit être et nous ne sommes pas ce que nous devons être. L'abîme qui sépare en l'homme l'idéal et la réalité nous cause de grandes souffrances. L'homme pense autrement qu'il ne vit, car il ne pense pas, mais on pense en lui et pour lui, par des computers, par des choses telles que Google et d'autres gadgets scientifiques. Notre moi, souvent, n'est pas plus maître de la pensée que de la vie. Ainsi, il y a souvent en l'homme un sens de la vie que le corps ne peut pas suivre et une énergie corporelle que le sens de la vie ne peut pas rejoindre. L'homme est inachevé et c'est cet inachèvement qu'on appelle mort. Il y a un arrêt dans la nature humaine. Dans cet état d'inachèvement, l'espérance pénètre par la résurrection de Jésus-Christ. Si la résurrection nous paraît tellement merveilleuse, c'est que nous n'en voyons que la fin. Si nous en voyons le commencement, nous la comprendrions mieux. Chez Jésus, dès la naissance, tout tend vers elle, le sens de Dieu qui est en lui, l'homme véritable, la prépare. Donc l'esprit de cette humanité glorieuse agit sur ses semblables si bien que placé dans la véritable situation, leur nature devient saine. C'est pourquoi il est si important que nous reconnaissions en Jésus le Fils de l'homme. n'accentuant pas uniquement son caractère divin, nous devons croître dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la connaissance de son humanité qui est pour nous une garantie de la forme nouvelle que prendra notre propre existence. Croire en lui, c'est dire simplement devant lui, voici l'homme véritable. Si ensuite, unis à Jésus, nous nous développons selon cette humanité véritable, de façon que notre vie corporelle elle-même se conforme à la pensée de Dieu, alors peut apparaître une société humaine digne de vivre, une communauté de Jésus-Christ, un corps de Jésus-Christ. Ils ont de la valeur, les hommes qui, selon la pensée de Dieu, sont aptes à revivre. Ils possèdent ce qui mène à la résurrection, au développement normal du corps, conforme à ce sens de la vie qui est, en l'homme, créé à l'image de Dieu. Chers amis, veux-tu commencer dès aujourd'hui à être un disciple de Jésus? Sois un imitateur de Jésus-Christ. Sois joyeux, joyeux dans l'espérance, persévère dans la patience. Ne laisse pas ton énergie s'épuiser dans les polémiques religieuses et confessionnelles. Demande au Seigneur comme but de te rendre un homme normal. Que Dieu réveille encore une fois les hommes pour la rédemption du corps. Nous en avons la promesse. Un jour, Dieu transfigurera notre corps périssable. Alors notre être corporel lui-même sera si bien transporté dans le royaume des cieux que même dans cette vie corporelle, aucune tentation ne pourra plus nous abattre. Mais Jésus-Christ peut, il peut dès aujourd'hui faire entrer dans notre corps une puissance de transfiguration, car tout ce que Dieu réalise en nous commence par un germe simple et naturel. Dès aujourd'hui, notre être tout entier peut être placé dans la main de Dieu. Acceptons la volonté de Dieu, non seulement dans la chambre haute de l'esprit, mais aussi dans la chair et dans le sang, tout au moins dans nos résolutions, dans la promesse que nous faisons au Père Céleste, dans tout notre effort pour que son Saint-Nom soit sanctifié parmi nous, pour que en notre qualité d'homme placé sous sa main, nous soyons complètement libérés de toutes les puissances des ténèbres. Dans la résurrection, il faut voir une chose bien simple. De même que les arbres dont la coupe a été décidée se mettent tout à coup à verdir et à fleurir, allant ainsi à la vie et non à la pourriture. De même en sera-t-il de la résurrection. Nous sommes en toute chose sur le chemin de la mort, mais à un moment donné, cette régression s'arrête et devient une progression. Cette transformation s'opère sous la conduite de Dieu qui agit en silence. dans le royaume de Dieu, l'époque la plus silencieuse sera celle de la résurrection. Et c'est alors que se produira, dans un silence absolu, la véritable rénovation des hommes. Il viendra dans un grand silence le jour de la résurrection. Les bonnes gens pensent qu'avec la mort, tout s'arrange d'un seul coup. Mais si tu ne possèdes pas ici-bas la vie éternelle, crois-tu que les choses iront mieux là-haut? De quel droit croyons-nous que la mort nous délivre de la vanité et de l'erreur? Telle personne, après leur mort, risque d'être désagréablement surpris. Mais celui qui dès ici-bas possède la vie éternelle, il ou elle, peu importe s'il dépose son corps, c'est pour lui ou pour elle le début d'aspiration nouvelle et d'une vie bienheureuse. Jésus-Christ est pour nous le prince de la vie. Nous vivons bien par nous-mêmes, mais nous ne vivons pas la vie éternelle. Notre vie peut ne pas cesser, mais elle ne peut parvenir à sa vraie valeur, car celui-là seul qui vit dans l'éternité acquiert sa véritable valeur. Et ne pas parvenir à sa vraie valeur, c'est n'être pas heureux, c'est souffrir, c'est être dans les tourments. Jésus est le prince de la vie. Nous, les êtres qui ne devons pas finir, nous serons transportés dans l'éternité avec cette vie qui n'a pas de fin. L'éternité supprime la souffrance. Dans l'éternité, tout est purifié du péché et de la mort. L'éternité élimine ce qui est impur, car ce qui est éternel appartient à Dieu seul. Il n'y a pas de place dans l'éternité pour Satan, pour le mal, pour le mensonge, pour la tromperie et par conséquent pour la mort. L'éternité est une réalité, un monde plein de vie. Si notre monde, qui est en quelque sorte exclu de l'éternité, entre en contact avec elle, il se produit des développements de vie qui ne comportent plus d'interruption. La mort est une interruption de la vie. Par la mort, je ne prends pas fin, mais je ne peux pas aller plus loin. Si au contraire nous sommes dans l'éternité, nous allons toujours plus loin. Notre vie croît et prospère toujours plus en se rapprochant de Dieu. C'est pour cela que Jésus entend être le prince de la vie. À un prince, il faut un peuple, et un peuple doit être élevé de façon à vivre dans son prince, comme son prince vit en lui. C'est comme prince que Jésus se compare au pain qu'il veut donner à manger aux siens. Il veut être en nous l'éternel afin que nous-mêmes nous devenions éternels. Jésus est seul à avoir la vie éternelle? Aussi subsiste-t-il de tout temps? Il survit aux siècles et aux races. Et c'est pour cette raison que le christianisme, si abîmé qu'il puisse être, reste toujours, malgré tout, le terrain sur lequel on peut espérer de rencontrer le prince de la vie. Les Juifs sont religieusement forts au-dessus de tout autre peuple. Pour leur histoire, eh bien, vous savez, leur histoire, elle est traversée par un élan de progrès. On peut même dire une poussée de l'évolution. Ils ont toujours vécu dans l'attente. Après les plus grandes apparitions religieuses, ils sont restés pauvres de leurs héros. Ils n'ont pas fait, après coup, des dieux. Ce qu'il y a de plus grand, et non pas derrière eux, mais devant eux. Et cette promesse reste toujours dans la ligne de ce qui est sobre et humain. Aucune exaltation. Cette promesse veut que le monde entier vive un jour dans l'harmonie, mais elle reconnaît qu'auparavant, l'homme lui-même doit changer. Pas un prophète n'a songé à fonder avec les hommes tels qu'ils sont un état idéal au moyen de lois et d'instructions magnifiques. On savait que le royaume des cieux allait venir, mais qu'auparavant, les cœurs devaient changer. La religion du peuple d'Israël, elle renfermait donc un germe actif de progrès qui a agi puissamment. L'apparition de Jésus-Christ y a répondu. Dieu veut de nouveau, il veut de nouveaux cieux et il veut une nouvelle terre. Les hommes, eux aussi, veulent du nouveau. Ainsi Dieu et les hommes sont d'accord. Les hommes veulent se développer, ils veulent faire des progrès. Au fond, l'homme, depuis qu'il existe, n'a pas fait de progrès véritable. Les vieux actes de vente assyriens nous révèlent les mêmes hommes qu'aujourd'hui, animés des mêmes sentiments, des mêmes désirs. Cependant, les hommes ne se lassent pas. Ils espèrent fermement un progrès. Ils veulent atteindre la perfection. Dans ce désir, ils sont d'accord avec Dieu. On ne doit pas mépriser un homme qui veut le progrès et pas davantage un parti qui y aspire. C'est justement dans le christianisme que cette idée de progrès s'est affirmée. Les païens piétinent sur place. Aux Indes, il y a depuis des millénaires les mêmes castes. Mais dès qu'il y a quelque part une parcelle de christianisme, une fermentation commence. Nous devons donc être des hommes de progrès à l'unition de Dieu qui lui aussi veut faire du nouveau. Seulement la fermentation qui se manifeste dans les peuples chrétiens provient trop souvent de la haine. Or, du côté de Dieu, le progrès doit être suscité par l'amour. Si cette fermentation progressive se fait avec l'Esprit de Jésus, les malheureux, les opprimés, les souffrants, les méprisés obtiendront justice. Jésus est le présentant de l'amour de Dieu qu'il veut dépendre dans le cœur des hommes. Ne méprisez personne, ne condamnez personne. Sortez les petits de la poussière. Faites de tous les hommes des égaux par amour. Tout doit donc être renouvelé par amour, tel que le ciel et la terre. Les chrétiens eux-mêmes ont fait des révolutions par haine et ont cru par là servir Dieu. Mais Dieu aime le monde. C'est pourquoi il veut faire toutes choses nouvelles. Toi aussi, sache voir ce qu'il y a de bien dans le monde. Si tu veux le progrès, alors aime. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il faut aller jusqu'à la fin. Alors, un commencement nouveau amènera des choses toutes nouvelles. Mais jusqu'à la fin, il y aura des tribulations, des attaches et des hérédités, visibles ou invisibles, doivent être supprimées. Et quand on les supprime, c'est comme une opération chirurgicale. Aussi le Seigneur Jésus attend-il pour la fin des tremblements de terre? Oui, pour la fin de ce monde actuel. Nous allons voir davantage de tremblements de terre, davantage de typhons, de hurricanes, des tempêtes épouvantables, la peste, le chaos mondial et des guerres terribles. Ces tribulations ne sont pas encore la fin, mais elles doivent pousser dans le sens de la fin. Et la fin viendra quand toutes ces épreuves qui renferment un principe dissolvant auront accompli leurs œuvres et seront achevées. C'est alors que viendra le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la fin, mais c'est en même temps un commencement nouveau. Car devant Dieu, il n'y a pas de fin sans un commencement nouveau. Le péché cessera. L'injustice, le mensonge, la fausseté, tout ce qui est mauvais cessera tôt ou tard pour que Dieu puisse commencer et préparer le millénium. Chrétien, il faut lutter de toutes tes forces pour que vienne la fin du mal, et il ne faut jamais que tu murmures contre ce qui est bien. Le mal périt, mais le bien subsiste. Dans l'individu, rien de ce qui est bon ne se perd, mais tout ce qui n'est pas bon est voué à la ruine. Quiconque ne veut pas se résoudre à sacrifier ce qu'il y a de mal en lui, s'expose à de grandes tribulations. Il y a des hommes qui se cramponnent au mal en le retenant, ils luttent contre Dieu. D'autres lâchent tout. Leur vie est un perpétuel détachement jusqu'à la fin. Mais pour finir, ayant tout quitté, ils recevront tout. Le royaume de Dieu viendra à eux avec toutes ses gloires. Persévérer, ce n'est pas de se roidir, être raide et défier le monde. On peut aller à la mort par pure obstination, mais alors c'est une fin humaine et non pas une fin divine. Si on veut m'élever, plutôt m'enlever, excusez-moi, donc je répète, si par exemple quelqu'un veut m'enlever tous mes biens, maison, propriété, voiture, piscine, argent à la banque, eh bien qu'on le prenne. Si on veut me ravir mes droits, eh bien qu'on les ravisse. Le mal, il a une fin. La persécution, elle a une fin. Mais toi, oh oui, toi, tu n'en as pas. Laisse-toi donc persécuter. Il y en a beaucoup qui sont persécutés aujourd'hui. Laisse-toi injurier. Laisse-toi maudire. Tout cela cessera bientôt. Prie pour les persécuteurs, car pour toi, tu n'as pas de crainte à avoir si tu es bon et attaché au bien. Laisse aller ce qui est mal et tu collaboreras à la fin. Oh, que les hommes seraient sages en lâchant tout et en ne se cramponnant pas à des choses qui ont peu de valeur terrestre, encore moins une valeur éternelle. Donc, s'il te plaît, persévère et tu seras sauvé. C'est le désir le plus ardent du Sauveur, que la fin du monde vienne. Quiconque sent en soi les maux indicibles du monde actuel, au point que son cœur sensible ne puisse les supporter, porte un lourd fardeau. C'est pourquoi Jésus travaille de toute son âme à mettre fin à cet âge de douleur. C'est dans ce but qu'il donne ses ordres. Quand il appelait ses disciples, il le faisait seulement pour arriver le plus vite possible à la fin de cet âge. Le Seigneur se hâte vers le but. Pour le dire en langage humain, Jésus a cru qu'il trouverait des disciples avec lesquels il pourrait faire une trouée dans le monde. Mais nul ne comprit cette impatience du Sauveur et de ses disciples. Nous contemplons mélancoliquement aujourd'hui cette façon joyeuse et pleine d'espoir de se hâter vers la fin. Quand nous voyons le Sauveur et ses disciples dans cette prodigieuse tension, nous devons accueillir en nous les ordres de Jésus, avoir une immense pitié pour tout ce qui existe et tendre toutes nos énergies pour que la fin vienne, pour qu'il y ait au moins des progrès auxquels on puisse reconnaître qu'elle approche, ce que l'indisciple détresse du monde puisse enfin cesser. S'il est dit dans la Sainte Bible, la fin de toute chose est venue, cela ne signifie pas naturellement que la fin des œuvres de Dieu soit venue. Seule est venue la fin de toutes les choses humaines, faites sans Dieu. Il y aura une fin pour le mal. On ne peut pas éterniser le péché, la mort et l'enfer. Le bien étant éternel, le mal ne peut l'être, parce que Dieu est, et tout ce qui n'est pas de Dieu doit donc cesser. Quand Nietzsche a dit que Dieu est mort, il y a là quelque chose de vrai. Dieu en soi n'est pas mort, mais pour les hommes actuels, il est quelque chose de mort. Les hommes poursuivent tous les buts possibles, ils écoutent n'importe quoi, mais quand on parle de Dieu, la plupart du temps on les ennuie. Il est de plus en plus clair aujourd'hui que notre civilisation se passe de Dieu. Or, pour les païens, les faux dieux sont vivants. Chers amis, pour vous qui écoutez maintenant, Dieu n'est pas mort. Dieu vit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le vivant. Entre l'alpha et l'oméga, il y a le chaos. Cet état chaotique n'a pas encore été surmonté de nos jours, tant au point de vue spirituel qu'au point de vue physique. Assurément, il y a là un commencement, mais la fin n'est pas encore là. À cette fin, les hommes doivent travailler, ils doivent s'associer au labeur qui la prépare. Or, ils ne s'y associent pas. C'est dès le paradis que l'homme aurait dû le faire. Le serpent ne pouvait être vaincu sans son concours. Mais l'homme ne fit pas son devoir. Il laissa se produire une fissure entre Dieu et l'homme. C'est dans ce chaos qui a persisté que se dressent les grandes personnalités des prophètes, des hommes qui disent avec toute leur énergie, il faut en finir, il faut que les hommes se soumettent. Finalement, paraît enfin celui qui de corps et d'âme travaille en vue de la fin, c'est Jésus-Christ. Il se dresse au milieu entre l'alpha et l'oméga. Dès le début, ce devait être le devoir de la communauté chrétienne de vivre toujours en vue de la fin, en répétant, c'est la fin. Tout change. Dieu vit. Notre Dieu vient. Mais on a négligé ce devoir. Le chaos ne peut être vaincu sans une lutte à mort. Pour les enfants de Dieu, il n'existe pas sur la terre de félicité confortable, mais des luttes. Il faut brandir opiniâtrement l'étendard des droits de Dieu contre tout ce qui ne plie pas devant lui. Si notre espérance ne se réalise pas, qu'adviendra-t-il de notre terre et de l'humanité? Si les non-chrétiens et pseudo-chrétiens de notre civilisation vont en terre païenne sans le Dieu vivant, qu'adviendra-t-il de ces hommes simples et enfants que sont les païens? Dans notre civilisation, les hommes sont égorgés par milliers et on ne comprend pas le Dieu qui permet cela. notre pauvre petite culture chrétienne ne nous mettra pas à l'abri si la faim ne vient pas. Le progrès ne viendra véritablement que le jour où Dieu aura son trône. Il aura son trône aussi sur la terre et pas seulement au ciel. Et c'est alors que commencera le vrai développement de l'homme, car jusqu'ici, la véritable essence de l'homme n'a pas pu encore se développer. À cet achèvement, sachons collaborer. Cessez de rechercher vos aises. Ne secouez pas loin de vous tout ce qui est difficile et pénible. Ami, charge-toi de ta croix. Jette-toi au plus fort de la mêlée. Jésus est vivant. Oui, Jésus est vainqueur. Et il nous donne l'ordre de collaborer à la venue de la fin. Tant que l'achèvement n'est pas arrivé, le monde n'est bon à rien. Pour le moment, nous ne pouvons être dans le monde que des gouttelettes de rosée qui lui permettent de briller un peu, et nous annonçons au monde l'Évangile, car Jésus est notre Sauveur. Ne croyez pas que le monde entier se convertisse avant le jour de Jésus-Christ. Nous prêchons l'Évangile au monde parce que il y a partout des âmes affamées, mais ne croyons pas que par là le monde soit déjà vaincu. Laissons-le venir à nous, portons-le sur notre cœur, confions-le à l'amour de Dieu, persévérez dans cet amour de Dieu et tiens ferme jusqu'à la fin. La parole dit, « Voici je viens bientôt. » Divise l'histoire de la communauté de Jésus-Christ en deux périodes, le temps de la préparation et celui du royaume de Dieu. La période préliminaire du royaume de Dieu a commencé avec la venue corporelle du Sauveur. Dans cette période, nous avons l'Évangile, nous avons la puissance de Dieu qui donne le salut à tous ceux qui y croient. Le royaume de Dieu est annoncé, mais la domination de Dieu en Christ n'est pas encore établie, elle ne fait que commencer en silence, à l'insu du monde, chez les croyants. Tout le reste de l'humanité, la masse, quand elle entend l'Évangile, elle reste en grande partie, on peut dire, en régimenté, sous le péché et sous la mort. Seule la lumière de l'espérance va briller. Elle brille au sein de cette masse grâce à l'Évangile qui révèle l'amour de Dieu pour le monde. Par cette espérance, la victoire des ténèbres est enrayée. Mais l'être intérieur des hommes n'est pas encore libéré pour Dieu et ne possède pas la force qui remporte la victoire sur le péché. Un monde nouveau, une création nouvelle, n'existe que à l'état latent chez ceux qui croient. Ceux-ci sont les précurseurs du royaume de Dieu. Leur mission est d'être fidèles jusqu'à la mort et en combattant de revendiquer la terre comme appartenant à Dieu jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne dans la gloire de son Père. alors seulement se manifestera envers les peuples la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Alors apparaîtra le jugement. Sans le jugement, même au temps de l'Évangile, nul ne pouvait être sauvé. Il en sera de même à la fin des temps. La masse des hommes ne pourra être sauvée sans le jugement que le Fils de l'homme exercera lors de sa venue. Au jour du jugement dernier, on verra tomber bien des choses que nous tenons encore aujourd'hui pour justes et bonnes, mais que Dieu ne fait que tolérer provisoirement. Alors ce jugement, nous ne pouvons rien espérer avant ce jugement. Rien pour le renouvellement de l'humanité dans son ensemble. Chers amis, pour terminer cette étude, ne devons-nous pas nous décourager? Oh non, surtout pas. Si actuellement le monde n'est pas encore atteint, et si la foi ne peut s'affirmer qu'en se cachant, le monde n'est pas pour cela irrémédiablement perdu. Il est dans l'attente de la suprême révélation de Dieu où Jésus-Christ apparaîtra comme le roi des rois. Tout dépend, oui, tout dépend de la fidélité des précurseurs. C'est nous, c'est toi et moi qui devons travailler. Elle est pour nous, surtout pour les élus, les serviteurs, les servantes qui attendent leur maître, leur Messie. La réponse à leur attente, c'est la prière. La prière est « Voici, je viens bientôt. Amen. » Et chers amis, demain matin, Dieu voulant, nous continuerons l'étude numéro 11, toujours l'espoir et l'attente, deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse, car il aime ceux qui ont compris, qui ont été assez humbles d'accepter la main tendue pour l'accepter comme leur Sauveur et Seigneur. Prions. Chers amis, nous allons prier ensemble et c'est dans votre cœur que vous pouvez répéter cette prière après moi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle, car ta parole dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence. J'étais perdu et j'étais indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Oui, il a souffert à ma place. Je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. Rien ne me sépare désormais de toi. Maintenant, oui, maintenant, Jésus-Christ, tu vis enfin en moi. Je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné. Tu m'as admis dans ta famille royale. Je suis ton enfant. Tu es mon père. La justice, ta justice, elle est maintenant la mienne. Ta vie, elle est maintenant ma vie. Ta nature est maintenant la mienne. Je suis à toi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il en a payé le prix. Sa justice est mise à mon compte et je suis enfin né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée maintenant. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.